Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, je reçois un spécialiste des origines du christianisme, Pierre Luigi Piovanelli. Nous allons traiter ensemble la question du Jésus historique hors du Nouveau Testament. Vous avez débuté à Florence par l'étude de la littérature éthiopienne. Vous enseignez maintenant à l'université d'Ottawa. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes philologue, amoureux des textes anciens. Et la première question que j'aimerais vous poser pour comprendre et pour nous aider à cerner cette question du personnage de Jésus historique, ce serait la question des sources.
Oui, tout à fait. La quête ou la recherche sur le Jésus historique a commencé en Europe dans le monde occidental, il y a environ 2 siècles et demi. Et tout de suite, il a été question d'examiner les sources d'une façon critique, de relire les textes. Les sources, au début, ont été nécessairement les évangiles canoniques, donc les 4 évangiles canoniques. Et c'est de cette recherche qu'est né, par exemple, qu'on a constaté la priorité, par exemple, de Marc. Après, par la suite, que derrière Matthieu et Luc, il y avait une source écrite de paroles, d'enseignement de Jésus, que l'on appelle la source Q, quelle, cela veut dire source en allemand, et ainsi de suite. Depuis 1985, la recherche a pris un tournant différent, surtout grâce à des collègues, des savants anglo-saxons, nord-américains, et donc on a commencé à s'intéresser aussi à des sources qui étaient des sources à l'extérieur du monde canonique, à l'extérieur de ces textes qui avaient été sélectionnés, au fait, à la fin du deuxième siècle de notre ère, dans les années 180-200, c'est Irénée de Lyon, un père de l'Église, qui pour la première fois parle, définit plus ou moins une liste, en tout cas des évangiles canoniques, les 4 évangiles qui deviendront Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc on a commencé à élargir le champ de comparaison, et c'est aussi à partir de 1985 que l'on considère désormais Jésus comme une personnalité religieuse juive à part entière. Donc il s'agit d'un changement considérable. La recherche est devenue un petit peu moins théologique, voire beaucoup moins théologique pour certains spécialistes. Les historiens ont pris le dessus, disons, sur les théologiens. Et de ce fait, cela correspondait un petit peu à la découverte de bibliothèques de l'Antiquité qui ont vraiment changé notre connaissance de la littérature, du monde des idées, de la culture, de la société ancienne. D'un côté, nous avons la bibliothèque de Qumran, les manuscrits de la Mer Morte, donc c'est à partir de 1947, après 1956, on a découvert cette bibliothèque merveilleuse d'environ 800-900 rouleaux écrits pour la grande majorité en hébreu et en araméen, donc appartenant probablement à une bibliothèque d'une communauté essénienne, une communauté sectaire du judaïsme ancien.
C'est ce que nous appelons, je crois, les manuscrits de la Mer Morte.
Tout à fait, ce sont les manuscrits de la Mer Morte. Et donc cela nous a permis de connaître beaucoup mieux le monde du judaïsme de la fin de l'époque du Second Temple. Donc si vous voyez, un petit peu à partir du deuxième siècle avant notre ère jusqu'au premier siècle de notre ère, aux années 60.
J'évoquais votre parcours universitaire très rapidement tout à l'heure. Mais il faut bien comprendre que vous êtes un spécialiste. C'est cette période charnière finalement entre la période du Second Temple et ce début de ce qu'on appellera ensuite le christianisme.
Oui, tout à fait. Disons que j'ai plusieurs flèches, est-ce qu'on dit cela, dans mon arc, et je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Disons que j'ai fait mes études dans les années 80 du siècle dernier, désormais, et donc à l'époque, j'étais personnellement convaincu, mais nous étions tous personnellement convaincus, qu'en cherchant de ce côté-là, en explorant des documents nouveaux, et entre autres les apocryphes, les pseudépigraphiques de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, on découvrirait des éléments nouveaux et intéressants pour l'histoire du judaïsme ancien et des origines du christianisme.
Alors vous avez dit un mot qui est important pour la suite de notre conversation ce matin, c'est le mot apocryphe.
Oui.
Donc ce sont, pour résumer, pour que nous comprenions bien, tous les textes manuscrits qui n'ont pas été retenus à ces époques successives de sélection pour notre connaissance de la période de Jésus.
Oui, tout à fait. Et entre autres, du côté du christianisme, donc du côté du judaïsme, la découverte, la publication, l'étude des manuscrits de la Mer Morte, du côté du christianisme, c'est surtout la découverte de la petite bibliothèque, entre guillemets, gnostique, donc là aussi une secte un petit peu particulière, un mouvement particulier, très mystique du christianisme, des origines dans ce cas. Et c'était un recueil de textes copiés dans 12-13 volumes en papyrus que l'on a découvert à Nag Hammadi,
en Égypte,
en 1945. Et ces textes qui avaient été rédigés à l'origine en grec, manifestement en grec, avaient été traduits en copte. Donc nous avons toute une série de textes qui n'existent plus, que l'on connaissait par bribes, par des fragments grecs, des papyri, voire des citations par les pères de l'Église, qui donc on connaissait leur existence, on soupçonnait leur existence et leur importance. Mais à partir de 1945, on a découvert ces textes, un bon échantillonnage de ces textes en Égypte, et à partir des années 1960, on a commencé à les publier régulièrement, et c'est là aussi que la découverte de ces textes nous a permis de porter un regard différent sur les origines du christianisme. Donc, de deux côtés, les manuscrits de la Mer Morte et les manuscrits de Nag Hammadi ont vraiment ouvert des perspectives nouvelles.
Alors, parmi ces textes, parmi ces nombreux manuscrits dont vous parlez, il y a un apocryphe qui a été attribué à ce qu'on appelle l'évangile de Saint Thomas. Et j'ai l'impression qu'il y a des descriptions, il y a des paroles attribuées à Jésus qui changent un petit peu notre point de vue.
Oui, certainement. Donc pour moi, l'évangile selon saint Thomas est le texte apocryphe qui a apporté le plus d'éléments nouveaux, dirais-je, au niveau vraiment du Jésus historique. C'est-à-dire, c'est un texte qui est un recueil de 114 paroles de Jésus qui sont totalement dépourvu de contexte, donc il n'y a pas de contexte chronologique, contexte géographique. Vraiment, c'est bâti sur le modèle « Jésus a dit » et suit une parole de Jésus. Point à la ligne. Donc, par exemple, pour vous citer une petite sentence de Jésus qui a des chances, à mon avis, d'être originale, ancienne, je cite « Celui qui est près de moi est près du feu, et celui qui est loin de moi est loin du royaume. » Donc c'est clair, en faisant une exégèse assez basique, celui qui est ou celle qui est près de Jésus prend un risque considérable par rapport à la société de son temps. C'est un choix difficile à faire, mais en même temps, si on ne suit pas Jésus, on est loin de cette réalité qui est transcendante, dans ce cas, qui est le royaume de Dieu. De la vie, il y a une variante qui dit « qui est loin de moi est loin de la vie ». La vie éternelle, le salut, le contact avec la divinité, le renouvellement intérieur, donc toutes sortes, la renaissance spirituelle, toutes sortes de réalités de ce type. Encore, il y a le logion, le mot grec logion signifie parole de Jésus.
Oui,
oui, et donc c'est logion au singulier, parole au pluriel, logia, donc on dit généralement c'est un recueil de logia, la source Q était un recueil de logia. L'évangile selon Thomas est un recueil de logia, ce sont des termes techniques. Le logion 42, donc la parole numéro 42 de cet évangile, est la plus courte de l'évangile et c'est la plus énigmatique, la plus difficile à expliquer. Jésus a dit tout simplement « devenez des passants ».
Des passants.
Des passants. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Nous avons une interprétation musulmane tardive, qui probablement à l'origine devait partir, je ne sais pas, de la connaissance de ce type de parole, qui dit, au fait, le monde est un pont, il faut passer sur ce pont, mais il ne faut rien bâtir sur ce pont. Donc ce serait une sorte de parole d'ascèse, il faut renoncer un petit peu à ce monde, il faut vivre comme si le monde n'existait pas. Ce serait une possibilité, mais il y a aussi une autre possibilité, au fait, si le Jésus de Thomas ici jouait avec le mot hébreu, Ivrim en hébreu, donc il y a une étymologie populaire ancienne qui fait du mot hébreu les passeurs. Donc est-ce qu'il pourrait s'agir de, je ne sais pas, une interprétation, soyez des passeurs, mais des passeurs de quoi? De passeurs de la bonne nouvelle, de la révélation apportée par Jésus. Donc soyez à la limite même des apôtres, devenez les apôtres de Jésus, du Christ.
Est-ce que vous, en tant qu'historien, vous prenez ces descriptions, donc ces textes apocryphes, comme des éléments importants pour compléter la vision traditionnelle du Jésus historique que nous avons ?
Personnellement, dans le cas de l'Évangile selon Thomas, ma réponse est positive, affirmative. Mais vous savez, il y a plusieurs positions, le débat est ouvert dans la recherche, et il y a plusieurs savants, plusieurs collègues qui sont un petit peu plus conservateurs. Par exemple, pour ces personnes, pour ces collègues, tout ce qui est à l'extérieur du canon, automatiquement, est secondaire. Donc, on a encore récemment publié des études assez importantes, assez techniques, pour démontrer au fait que l'évangile selon Thomas aurait été inspiré, aurait connu l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, entre autres. Et donc, vous voyez, pour démontrer que c'est un évangile secondaire, donc rien d'original. Mais je ne le crois pas. Donc, c'est une hypothèse qui, à mon avis, n'est pas vérifiable, n'est pas tout à fait plausible. Donc, il s'agit un petit peu du poids de l'évidence. Et c'est pour cette raison que, hélas, il faut se livrer aussi, les spécialistes doivent se livrer aussi à ce type d'études très techniques, très philologiques, pour essayer un petit peu de démêler le probable, ce qui est probable, de ce qui est un petit peu moins probable.
Et c'est dans cette faille, finalement, qu'on peut retrouver ce dialogue entre le Jésus historique et le Jésus authentique, cette recherche d'authenticité.
Oui, tout à fait, recherche d'authenticité. En ce qui me concerne, c'est une authenticité historique. C'est clair que pour beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, cette authenticité est aussi une authenticité de la foi. Donc les enseignements de Jésus sont importants parce que Jésus a été le fondateur du christianisme, et donc c'est clair qu'il y a aussi cet intérêt. La recherche sur le Jésus historique est née comme une recherche, comme une quête vraiment de remonter à la vérité des moments fondateurs du christianisme. Donc il y a eu cette dimension de recherche vraiment des enseignements originaux des origines du christianisme. En ce qui me concerne, je me contente plutôt d'adopter une posture d'historien. Et donc, en tant qu'historien, je suis intéressé et au Jésus historique et à la façon dont le Jésus historique a été reçu, sa mémoire a été reçue, modifiée, actualisé par les différentes communautés. Donc voilà, donc le mouvement de Jésus est un mouvement qui commence avec Jésus mais qui continue, c'est l'histoire aussi de ces communautés. On parle dans le cas de l'évangile selon Thomas d'une communauté thomasienne, donc une communauté à part qui serait à distinguer de la communauté par exemple de Jean, la communauté joannique.
Alors je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question sur deux faux célèbres que vous avez évoqués dans un article et qui me semblent assez significatifs de cette recherche d'authenticité à tout prix d'une certaine manière. Vous évoquez la vie de Saint Issa, un texte qui aurait apparemment été fait de toutes pièces au XIXe siècle dans un milieu russe, sur l'idée que Jésus, dans ce laps de temps que nous ne connaissons pas, aurait été jusqu'au Tibet, jusqu'en Inde.
Oui, c'est un texte très intéressant. Et vous voyez, là, c'est une idée un petit peu hérétique, entre guillemets, que j'avais émise il y a quelques quinzaines d'années. L'idée qu'au fait, on n'a jamais arrêté de produire des textes apocryphes, parce que c'est une façon de raconter, le besoin de se raconter.
Il faut peut-être expliquer le mot apocryphe.
Oui, le mot apocryphe n'a pas une connotation négative à l'origine. Cela signifie simplement caché. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient cachés dans les bibliothèques d'origine. Ils étaient, disons, cachés de la vue du commun des mortels, du commun des lecteurs. Et caché, donc, cela signifie ésotérique. Ésotérique dans le sens d'une école de philosophie, par exemple. Ce sont les textes que l'on lit à l'intérieur du cercle des disciples, le cercle rapproché des disciples, mais que l'on ne communique pas à l'extérieur. Bien évidemment, avec le temps, le mot apocryphe a assumé une connotation négative de fausseté, d'hérésie aussi. Il a été souvent associé à la notion d'hérésie, mais à l'origine, c'est simplement quelque chose qui est ésotérique, c'est-à-dire réservé au cercle des initiés, et non pas exotérique. Donc exotérique, c'est le texte que l'on diffuse à l'extérieur, donc tout le monde peut y avoir accès.
Est-ce que vous nous dites, par rapport à ce texte créé, disons, au XIXe siècle, oui. C'est que ce processus, finalement, continue d'une certaine manière.
Oui, et donc c'était une idée un petit peu, comment dirais-je, scandaleuse pour certains collègues.
Un peu loufoque, peut-être.
Loufoque, certainement, certainement, mais vous savez... En provenance d'Amérique du Nord, bon, c'est clair qu'en Amérique du Nord, on a parfois des idées un petit peu étranges ou loufoques, comme vous le dites. Et donc, l'idée, c'était aussi de reprendre des textes qui, manifestement, sont des apocryphes modernes, contemporains.
La vie de Saint-Issat, nous parlons.
Oui, la vie de Saint-Issat, c'est un texte qui a fait beaucoup de bruit dès sa publication, en français, par ailleurs, parce que c'est un correspondant de guerre russe, Nicolas Notovitch, qui était un journaliste russe d'origine juive. Il s'était converti avec son frère au christianisme orthodoxe, mais manifestement, en dépit de toute sa bonne volonté, il avait du mal à être accepté par la société, la bonne société russe de l'époque. À un certain moment, il s'est rendu apparemment en Inde pour couvrir un conflit colonial anglais. Il semblerait qu'il s'est livré aussi à des activités d'espionnage, mais bon, une chose n'exclut pas l'autre. Il serait tombé malade, ou il se serait cassé une jambe, et donc il serait resté longtemps hébergé dans un monastère bouddhiste tibétain. Et c'est là, dans ce monastère, que l'on aurait fait la lecture de ce texte étrange, la vie de Issa, mais Issa, c'est Jésus, c'est le nom de Jésus, donc l'histoire du jeune Jésus qui se serait rendu en Inde, et après au Tibet, et qui aurait rencontré successivement le jeune Jésus, donc dans sa période formatrice, l'éducation du jeune Jésus, l'initiation à la rencontre avec l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme. Et donc c'est un texte qui a été un petit peu le texte qui a provoqué un petit peu cette vague de spéculation sur la possibilité que Jésus se soit rendu en Inde.
Un texte qui a beaucoup d'influence.
Oui, c'est un texte aujourd'hui. Qui a été...
Qui est un faux, alors.
Bah oui, très vite, on s'est rendu compte que le texte fourmillait d'invraisemblances, d'erreurs, d'anachronismes. Et un orientaliste célèbre de l'époque, Max Müller, il a tout de suite dénoncé le texte comme étant parfaitement faux. Et même Notovitch a, à demi-mot, admis que bon, la chose n'était pas tout à fait claire, parce que le texte original n'était pas disponible. Il n'avait publié qu'une traduction. Donc on avait fait la traduction oralement à Notovitch pendant sa maladie. Et donc, oui, très vite, on s'est rendu compte qu'il était plus ou moins faux, mais cela n'a pas empêché ce texte d'exercer une influence considérable auprès, bah, jusqu'à Gérald Messadier, si vous voulez, aujourd'hui, dans la littérature française, toutes ces personnes qui sont convaincues que Jésus, à un moment ou un autre, avant sa passion ou après sa passion, s'était rendu en Inde.
Et sur le Jésus historique, plus les découvertes avancent, plus la recherche se mobilise et se précise, nous savons beaucoup de choses de plus en plus, non ?
Oui, cela dépend évidemment de l'école de pensée, des chercheurs, des différents chercheurs. Il y a une certaine polarisation qui est, à mon avis, un petit peu... problématique, mais disons qu'il y a une école de pensée qui ferait de Jésus une sorte de réformateur social, donc quelqu'un qui, à la limite, aurait été mal compris par ses contemporaines, ce qui aurait conduit à sa mort.
Un réformateur du judaïsme, tout simplement.
Oui, un réformateur du judaïsme, évidemment. Et d'autres qui insistent sur un paradigme un petit peu, une interprétation un petit peu plus traditionnelle, donc un prophète apocalyptique, le prophète de la fin du monde, du renouveau, dramatique, la fin des royaumes tels qui existaient à l'époque et l'instauration du royaume de Dieu, donc la transformation de l'humanité et du monde. Je pense que, honnêtement, la vérité, comme c'est souvent le cas, est à mi-chemin entre ces deux facettes. En réalité, une chose n'exclut pas l'autre. Disons que dans le premier cas, on a tendance à vouloir faire du Jésus historique quelqu'un d'extrêmement moderne, donc quelqu'un d'extrêmement compréhensible pour les sociétés contemporaines d'aujourd'hui, occidentales. Dans l'autre cas, on veut rester fidèle à la tradition telle qu'elle a été héritée par les églises chrétiennes. Donc Jésus est quand même le prophète qui annonce l'instauration du royaume dans les termes les plus traditionnels.
Est-ce qu'il reste, selon vous, des bibliothèques méconnues à découvrir ?
Il y a toujours la possibilité de découvrir des textes intéressants, soit dans les sables du désert. Évidemment, regardez l'évangile de Judas, Un autre texte copte découvert dans un manuscrit du même type plus ou moins que celui de Nag Hammadi, mais découvert dans les années 70, et après qu'il y a eu l'histoire qu'il a eue, parce qu'il est passé de main en main, il a été abîmé, jusqu'à sa récupération et sa publication en 2006-2007, donc qui contenait ce texte très important, l'Évangile de Judas, qui était un texte connu depuis l'Antiquité par des citations, mais il nous faisait défaut vraiment le texte tel quel. C'est une version copte, encore une fois. Donc là, c'est une découverte merveilleuse. Mais vous voyez, en ce qui me concerne, moi j'avais étudié un texte qui était disponible dans les manuscrits éthiopiens. Donc en allant à la Bibliothèque nationale, on peut encore aujourd'hui trouver des textes intéressants, méconnus ou peu connus.
Nous étions ce matin en compagnie de Pierluigi Piovanelli pour traiter de la question du Jésus historique hors du Nouveau Testament. Le professeur se propose très gentiment de nous mettre à disposition un article, voilà, que nous allons mettre en ligne pour vous aider à continuer l'exploration de cette période fascinante de l'histoire. Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Auchard et Bernard Laniel pour la réalisation de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant avec Michel Schaeffer, merci.